place de la mairie est noire de monde. Un panier au bras, je traîne Perle de Lune. Volubile et nerveuse, elle critique tous nos achats. Exaspérée par ses gémissements continuels, j'ai hâte de m'en débarrasser. Depuis 3 ans, sa vie s'est changée en un fleuve de désespoir. Je la secoue par le bras. Enfin, divorce ! Des larmes inondent son visage. Petite sœur, il m'a aimée. Il me jurait que je serais la seule femme de sa vie. Je ne crois pas qu'il ait oublié son serment. C'est plus fort que lui. Hier soir, je l'ai suivi. Il est allé au théâtre avec une demi-mondaine, une dépravée qui s'est laissée caresser dans la loge. Je ne sais que lui répondre. Perle de Lune, secouée de sanglots, ne se rend pas compte de son ridicule. Par chance, un pousse-pousse passe. Je l'arrête, installe ma sœur sur le banc et demande à l'homme de la conduire à la maison. Je continue les achats que mère m'a chargée de faire. Je termine mes courses et me dirige vers un salon de thé. Devant la porte, un fourneau a été dressé. Je m'assois et commande un thé aux amandes et aux noisettes. Le garçon s'empresse de me servir. Derrière moi, quelqu'un se met à chanter.
« Mon village se situe au creux du fleuve Amour, à l'orée d'un océan de pain. Comment pourrais-je oublier cette beauté, ma mère, mes sœurs, comment pourrais-je les abandonner aux envahisseurs?
Un frisson parcourt la foule. La chanson a été interdite. Celui qui ose la fredonner risque la prison. À 10 pas de moi, l'audacieux recommence, aussitôt suivi par d'autres voix. De plus en plus de monde rejoint le chœur et le chant se répand dans tout le marché. Des policiers sifflent l'alarme, des tirs éclatent. À cet appel, un paysan accroupi devant son panier d'œufs se lève un pistolet à la main. Un peu plus loin, un autre tire de dessous des bottes de paille des fusils qu'il distribue. Les hommes armés remontent vers la mairie en bousculant les passants. Le stand de thé s'effondre dans un fracas assourdissant. La marée humaine m'entraîne vers les grilles de la mairie où les échanges de coups de feu se font de plus en plus intenses. Je trébuche sur un corps et tombe. Un policier poignardé me fixe de ses yeux révulsés. Je me lève. Le coup de coude d'un paysan qui brandit son fusil me fait tomber de nouveau sur le cadavre. Je hurle. Un jeune homme se penche et me tend la main. « Venez, dit-il. » Sur un signe de tête, un second étudiant apparaît. Après avoir jeté sur moi un regard hautain, il empoigne mon autre bras. À deux, ils me soutiennent et se frayent un chemin dans la masse. Dans les rues, les combats font rage. Les deux étudiants, comme s'ils connaissaient d'avance les postes de police attaqués par les rebelles, contournent les lieux de sang et s'arrêtent finalement à l'entrée d'une vaste propriété. L'un d'entre eux ouvre la porte, devant un jardin abandonné. La maison, de style européen, est pourvue d'arcades en demi-lune, de fenêtres en losanges. « Nous sommes chez Ying », me dit l'étudiant à la peau mate en me montrant son ami. « Je m'appelle Min. » Min m'explique que la propriétaire, une des tantes de Ying, a quitté la ville pour Nankin. Ying s'est vu confier la charge de gardien avec joie. Sa voix jeune et grave ressemble à celle du chanteur de tout à l'heure. « Et toi ?» Je me présente et lui demande si je peux téléphoner. Ying me dit d'un ton impatient. Les résistants ont sûrement coupé les lignes. Voyant le désespoir sur mon visage, Min se propose d'essayer pour moi. Il saisit le téléphone sur un guéridon, mais n'obtient pas la ligne. « Je te raccompagnerai quand tout sera calmé », me dit-il de sa voix chaleureuse. « Ici, tu es en sûreté. As-tu faim ? Viens m'aider à faire la cuisine. » Pendant que Min prépare les pâtes, épluche les légumes, découpe la viande, du dehors on entend des tirs par intermittence. J'ignore ce que va devenir ma ville. Je pense que ces faux paysans sont membres de l'Union des résistances contre l'armée japonaise. Dans les journaux, on dit que ces bandits pillent, brûlent, prennent des citadins en otage et avec la rançon achètent des armes aux Russes. Comme Ying, je guette les rumeurs. Seule Min paraît tranquille. Il siffle un air d'opéra. Bientôt, Min me présente fièrement un énorme bol de nouilles au bœuf et au chou aigre doux. Il me tend une paire de baguettes. Je me souviens alors qu'on m'attend à la maison pour fêter mes 16 ans. Ying, sorti pour se renseigner, nous raconte que les rebelles ont occupé la mairie et jeté le cadavre du maire par-dessus le balcon. En quelques heures, la haine s'est propagée dans toute la ville. La population, excitée par le sang, massacre les collaborateurs et les émigrés nippons. Des soldats chinois enrôlés dans l'armée mandchoue se sont retournés contre les Japonais et encerclent la division ennemie dans sa caserne. Auront-ils la force de résister aux renforts japonais ?